Et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Laurent Baudouin. Où porter son regard cette semaine ? Sur l'artiste et poète anglo-canadien Brian Gysin, accessoirement ami et collaborateur de William Burroughs, qui inventa dans les années 60 avec l'ingénieur informatique Ian Somerville une machine à rêver destinée à être regardée les yeux fermés. La Dream Machine, en version originale, est un cylindre rotatif projetant des raies de lumière censés, s'ils sont perçus paupières closes, plonger le spectateur dans un état méditatif et apaisant. Pour voir celle dont je parle, car le nom a fréquemment été repris pour des choses sans rapport, il suffit de taper Dream Machine plus Gysin, G-Y-S-I-N, prénom Brian avec un O comme dans le début de Brioche. Chanteuse, auteure, compositrice et actrice, notre invitée est une créature expressionniste et mouvante à la tête d'un univers fantasmagorique. Fuyant toutes les étiquettes, notamment celle de poète maudit androgyne qu'on lui avait attribuée, je la cite, elle compose pour le cinéma, joue dans l'adaptation télévisée de Vernon Subutex de Dépente et organise des soirées festives où elle passe des disques tels ce que nous appelons depuis le siècle précédent un disque jockey. Son dernier album, Avec les yeux, est sorti en février dernier chez Sony sur le label Entreprise et c'est beau.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Fishback.
Salut Eva.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Oh bah plutôt pas mal. J'ai pas d'autre option pour y répondre.
C'est vrai, mais on pourrait être furieux même d'une chose qu'on ne peut pas changer.
On a posé des questions à ses parents très tôt. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi avec vous ? Et puis, c'est pas du fatalisme que de dire que c'est une chance.
Vous en tirez joliment. Je parle de mise au monde à chaque début d'émission, mais parlons aussi de fin. Votre mère était aide-soignante en gériatrie et votre oncle croque-mort. Et j'ai lu que vous parliez souvent de la mort en famille. Est-ce que vous avez peur d'elle ?
Oh bah, vous avez dit, vous avez cité mes proches à l'imparfait, ils le sont toujours.
Ah, parce que je me fais toujours attention au cas où quoi que ce soit se serait passé.
C'est vrai qu'on accompagne vers la mort, mais ceux-ci sont vivants. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai adoré me rapprocher d'eux. C'est des discussions qu'on a eues depuis toujours. Ma mère me parle de son métier terrible, d'accompagner les gens à la mort, et merveilleux à la fois. Donc oui, ça m'a forcément imprégnée.
Et est-ce que ça a... Enfin, je pars du principe que vous avez peur de la mort comme 99% des êtres humains. Est-ce que ça a diminué votre peur de la mort ?
Oh, je ne sais pas si je l'appelle ou si je la crains. En tout cas, je sais qu'elle est là et qu'elle fait partie de cette vie. Et qu'elle nous rend d'ailleurs la vie d'autant plus précieuse.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ? Vous qui dites dans une interview « je me déteste moins qu'avant ».
Ah, je me déteste moins qu'avant parce qu'on me détestait, on me trouvait peut-être détestable. Parce que je suis une grande pessimiste, parce que j'ai trouvé dans des Bliés, dans des Houellebecq, dans Alceste, du misanthrope de Molière, un écho. Et aujourd'hui, je suis peut-être plus douce avec cet aspect de moi. Je l'accepte, je l'enrobe, je l'admire presque.
Pas mal. Vous vous appelez Flora Fishback, vous étiez Flora dans le duo Most Agadent. Je le prononce n'importe comment ou ça va ?
Mais c'était un groupe de n'importe quoi, donc tout
ah
va bien.
Ah, mais ça va, moi, ouais. Le n'importe quoi, ça me plaît. Et sur scène, c'est seulement une partie de vous. Fishback, c'est votre côté obscur, dites-vous.
À l'époque, j'ai dit ça.
D'accord.
À l'époque, j'ai dit ça parce qu'il fallait se cacher. C'est très déroutant, vous savez, quand vous faites de la musique dans votre coin, qu'on vient de s'y intéresser. Il fallait un peu séparer l'œuvre de l'artiste, mais quelle connerie, en fait, tout ça est très, très lié. Et aujourd'hui, non, je crois que c'est bien d'être un peu les deux.
Donc, ombre et lumière.
Bah ouais. Et puis, ombre dans la vie, lumière dans la vie, ombre sur scène, mais ça permet de cracher des trucs horribles qu'on vit dans la vie. C'est génial, la musique. Schizophrène à la fois, parce que chaque soir, on chante les mêmes histoires pendant des années. Un acteur, un comédien, un théâtreux va jouer une pièce pendant des mois, des années, puis après, il passe à autre chose. Nous, toute notre vie, on nous ramènera une propre chanson. C'est dingue.
Ouais, ça doit être pénible aussi parfois.
Pas tant que ça. Il faut que la chanson soit assez mobile en soi-même pour pouvoir évoluer. Et puis qu'on se dise que c'est quand même merveilleux que tout l'intérêt qu'on nous porte soit pour quelques notes, quelques mélodies. C'est quand même fou, cette histoire.
Faut faire des chansons qui nous plaisent.
Ah bah ça, c'est inévitable.
Oh, pas toujours, je pense.
J'ai jamais fait de la musique pour plaire aux gens. Faut que ça me plaise à moi d'abord. Enfin, ça, c'est assez classique. Hein. Tous les musiciens vous le diront. Mais quoique, des fois, je fais des choix qui plaisent pas aux gens qui m'entourent. Et puis, tant pis.
Alors, ça n'a aucun rapport, mais ça me fascine. Vous avez aussi été fishback, photographe de sport et guide au château de Vincennes.
Oui, j'ai eu des petits métiers avant. Et je pense que ces petits métiers avant, où j'étais très rabaissée...
Moi, je trouve ça noble.
Bah, c'était noble. C'était noble avec le recul. Maintenant que j'ai 30 ans, on en parle avec noblesse. Mais cependant, à l'époque, c'était pas toujours fastoche. Mais j'étais persuadée que c'était noble de rendre service aux gens, de servir en tant que serveuse. J'ai adoré ce métier. Qu'il y ait une table qui s'éclate, qu'on leur ramène des mets qui soient délicieux et que grâce à vous, à votre service, passe un bon moment. Comme guide au château de Vincennes, amener l'histoire avec des anecdotes qui sont pas les plus historiques, etc. J'étais pas Stéphane Bern, je racontais des bêtises. Les anecdotes des fugues, des lettres de cachet au château de Vincennes, ça c'était beaucoup plus marrant que le reste. Et ouais, j'étais une serveuse de bistrot et une femme passionnée d'histoire, ça me correspond encore.
Bon, moi j'ai été la plus mauvaise serveuse de tous les temps, donc je vous salue, fishback. Ce qui vous donne envie de vous lever, c'est souvent l'envie de sortir de vos rêves qui peuvent parfois être déroutants. Et je vous cite, il y a un vrai soulagement au réveil, et mon chien aussi, car chaque réveil est une fête. Alors comment s'appelle votre chien et quel type de chien est-il ?
Alors mon chien s'appelle Ardent. C'est un chien mudi, c'est un berger hongrois, un tout petit berger blanc, au poil frisé, au regard très perçant. Un chien très dynamique, très expressif, très intelligent, trop sensible, qui déteste les gens.
Il vous ressemble ?
Il est assez méfiant et très fidèle, il me ressemble, oui. Et son réveil, c'est lui qui me dit « Maman, allons-y, on se réveille, on va faire des trucs. »
Il dit ça ?
Bah, inconsciemment, il me le dit, quoi. Ou alors, c'est de l'anthropomorphisme, on prête à nos animaux qu'on aime quelques intentions qui sont à nous, quoi.
Vous faites beaucoup de rêves, fishback un peu perturbant. Vous allez puiser dedans parfois et vous dites, c'est une gym, il faut noter ses rêves. Vous les notez systématiquement ?
Tant que je peux. Et puis après, il y a toujours une mémoire sélective. Quand on se réveille, on a des trucs, on vient des trucs qui sont assez perturbants. Ce qui est chouette, c'est de se dire, waouh, qu'est-ce qui résonne dans ma vie ? En quoi est-ce que ça peut régler des choses ? Alors, je ne suis pas du tout freudienne là-dessus. Je crois vraiment que c'est une part d'inconscient, des trucs assez bateaux, une mémoire sélective qui nous amène dans des trucs. Là, moi, en ce moment, j'ai un truc de claustrophobie, un peu comme de la spéléologie, mais dans des immeubles, dans des trucs assez cubiques, assez Le Corbusier, où je me balade dans des méandres et des dédales d'immeubles, un peu comme la maison de la radio, quoi. On comprend rien, et puis des fois, il y a des non-passages, et on peut pas ramper entre... Ça me fout en l'air, ouais. Et je me réveille, et je suis contente de me lever.
Ah oui, ça, c'est vrai que les cauchemars, ça rend toujours le réel plutôt sympathique.
Je sais même pas si c'est un cauchemar. C'est un rêve, quoi. Pas si cauchemardesque, il faut juste s'en sortir.
Ouais, comme la vie.
Bah ouais.
Qu'on me tranche le cou, si je n'ai pas su trancher, entre tous les remous de leurs âmes certifiées.
Sortilège de la technologie, nous entendons le morceau Dans un fou rire de Fishback qui est à la fois sur le morceau et dans le studio de l'embellie. Vous écoutez France Inter et c'est fort sympathique de votre part. Ruisseau d'Edouard Grieg, interprété par le pianiste Leif Ove Andsnes, pour introduire ce que vous aimeriez changer dans votre environnement, Fishback. Fishback en allemand, ça veut dire ruisseau au poisson.
Oui. À ce qui paraît, ouais.
À ce qui paraît. Alors, je vous cite, c'est bateau, mais j'aimerais qu'on arrête le saccage de la nature, chasser pour le plaisir les plastiques dans les rivières, etc. Les Ardennes, c'est votre région, Fishback.
Oui, absolument. Vous n'avez pas cité la question que vous m'aviez posée.
Si, c'était ce que vous aimeriez changer dans votre environnement.
Ouais, mais c'est un peu con. C'est un peu con.
Ma question ou votre réponse?
Les deux.
Ah bah sympa.
Les deux. Non, mais en fait, la question n'est pas du tout con. La question est totalement profonde et notre incapacité à y répondre est d'autant plus incroyable. Je suis comme beaucoup de gens bouleversée par ce qui se passe autour de nous. Est-ce un néopaganisme? Est-ce une nouvelle religion? Que de se dire l'apocalypse arrive, nous sommes en train de tout détruire. J'en sais foutre rien. Ce que j'observe, moi qui vis au bord d'une rivière ardennaise qui s'appelle la Semois, c'est qu'il y a beaucoup de plastique, que le niveau de l'eau baisse, que les gens s'en foutent à peu près. Pas tous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont précieux. Mais oui, ça me touche. Et je ne pense pas pouvoir changer le monde comme beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par contre, je pense qu'il est possible, à mon échelle, dans les Ardennes, de pouvoir agir, d'être sensible. Je connais les maires des différents cours d'eau, des villages autour des différents cours d'eau, des chasseurs, des pêcheurs, des activistes. Peut-être que je peux avoir un poids là-dessus. Et c'est tout ce que je saurais faire et ce serait peut-être déjà pas mal.
Ouais, moi, je pense que c'est possible, ouais, à petite échelle. C'est jamais assez, évidemment. On a envie de baisser les bras, mais c'est possible.
En tout cas, c'est une forme de beauté. La nature dans l'humanité, nous a souvent été cruelle. Et là, elle nous paraît belle, tout d'un coup, parce qu'on la voit disparaître. Ça, je trouve ça très poétique.
Mmh, mélancolique aussi. Fishback, vous avez passé votre permis, adopté un chien, et vous vous êtes installé à la campagne dans un village de 200 âmes, près de la rivière, dans la forêt de Charleville-Mézières. Vous y êtes toujours ?
Absolument, je viens d'ailleurs d'acheter une petite maison, pas loin, c'est une étape de vie. Voilà, j'ai fait exactement ce que je ne voulais pas faire pendant mon enfance, avoir un chien, une bagnole et une baraque. Est-ce qu'on est rattrapé par la vie ou est-ce qu'il faut juste trouver comme dirait cette merveilleuse chanson, à un droit pour vivre.
On change. Vous changez beaucoup, vous le dites aussi dans vos interviews. Vous dites aussi cette phrase, Paris c'est formidable pour le métier de vedette, mais pour le métier de musicien c'est un enfer.
Je ne sais pas si c'est un enfer pour le métier de musicien, mais en tout cas ça dépend de notre personnalité et de nos gènes. Je crois qu'on est fait à 50% d'un déterminisme biologique qui était mes parents, qui étaient mes ancêtres, ce que j'ai en moi, d'où je viens, et puis à 50% de notre éducation, de notre mode de vie, etc. Et ayant changé de mode de vie, il y a toujours ce 50% déterminisme qui me rattrape. Et c'est vrai que je suis pas du tout en adéquation avec le mode de vie parisien, mais que j'adore, par ailleurs. J'adore venir voir de la culture, rencontrer des gens. Donc le grand luxe, c'est de pouvoir faire les deux.
Vous faites les deux?
Ah bah oui, regardez, je suis là à Paris avec vous en studio.
Je vais vous poser plein de questions idiotes. Et j'attends que vous me disiez, elles sont idiotes.
Oui, en fait, non, vous ne posez pas des questions idiotes. Vous posez des questions qui sont très très larges et qui mériteraient une psychanalyse. Ou je ne sais pas quoi, comment ils appellent ça là.
Large comme la vie, bébé.
en tout cas, c'est des choses très très profondes. Et puis nos auditeurs, ils s'en foutent de savoir ce que j'en pense.
Mais bah non, ils écoutent l'émission en fait. Alors là, vous venez de ruiner des années d'émission.
Mais non, mais pas du tout. En tout cas, on peut se retrouver, j'imagine. Moi, je vous écoute souvent, Eva.
Et, ah bah, ça me fait plaisir.
Et souvent, dans vos invités, je reconnais des gens qui me correspondent, d'autres avec qui je ne m'entendrai jamais. Mais il y en a plein avec qui je me pose les mêmes genres de questions. Et puis ensemble, en s'écoutant les uns les autres, on y répond peut-être.
Peut-être collectivement sur des années, des décennies. Tout ça pour arriver à une réponse qui sera n'importe quoi. Fishback, vous dites comme beaucoup de gens, je suis souvent indignée mais je ne sais pas comment m'impliquer. Dans une autre interview, ne cherchez pas chez moi de message politique fort ou de parti pris parce que je change d'avis tout le temps, je change de voix tout le temps. Je vais d'un style à l'autre, je me cherche et je me chercherai toute ma vie. Ce n'est pas trop fatigant de changer tout le temps?
Ah bah non, au contraire, je pense que les convictions sont les plus dures à tenir. Alors, ça ne veut pas dire que j'en ai pas. Il y a des choses auxquelles je tiens depuis toujours et que je tiendrai. Cependant, cette fameuse expression « seuls les imbéciles ne changent pas d'avis », je suis toujours très très curieuse de savoir ce que pense l'autre. J'adore être en désaccord avec quelqu'un. Ce qui compte, c'est que dans notre désaccord, nous nous élevions l'un l'autre. Et qu'on puisse se comprendre, ou en tout cas se mettre à la place. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de point de vue, mais qu'on puisse comprendre l'autre. Et ça, c'est très intéressant. Moi qui ne suis pas... je ne comprends pas les chasseurs. C'est quelque chose que tu es pour le plaisir aujourd'hui, je comprends pas. Mais je comprends que ça a été très important pour que nos ancêtres fassent de nous ce que nous sommes. Cependant, il est important de les comprendre, ces mecs-là. Parce que c'est des mecs, hein, souvent. Et voilà, de se mettre à leur place et de... C'est intriguant, c'est intéressant. Je cite les chasseurs parce que ça me touche et que je le vois ça tous les jours. J'ai dû abattre moi-même un chevreuil il n'y a pas longtemps parce qu'il a été mutilé par ces hommes-là.
Oh non.
Bah si, mais c'était la seule façon d'abréger ses souffrances et j'ai dû le pousser à la rivière pour qu'il se noie. Malheureusement, ça fait partie de la vie. La nature n'est pas si belle, elle est aussi cruelle. Et donc voilà, c'était intéressant de juste aller chercher l'autre, ce qu'il vit, ce qu'il comprend et puis aussi peut-être pouvoir le convaincre.
Découvrons votre panthéon existentiel.
De l'autre côté de la mer, dans le pays de la fée des djinns, il fait toujours soleil. Partout des roses et du jasmin en baume. Les maisons sont blanches et bleues, comme dans un rêve.
Asmara a une plus grande peur que moi.
Tu es pas vrai? J'en ai moins.
C'est pas vrai, il a tout mangé.
Si vous n'arrêtez pas, j'arrête l'histoire de la fée des djinns.
Non!
D'abord, qu'est-ce qu'on dit?
Merci nourrice,
chocolat gna mama.
2006, extrait du film d'animation Azur et Asmar de Michel Oslo avec une musique signée Gabriel Yared. Fishback, vous avez choisi tous les films d'Oslo qu'on a eu la chance de recevoir il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, j'ai un grand souvenir de Michel Oslo, donc je suis née en 91. J'ai un souvenir à l'école où on nous emmenait au cinéma pour découvrir des œuvres. Et on nous avait emmenés dans le village où j'ai grandi en Normandie, dans un cinéma de Dieppe. Et j'ai découvert Prince et Princesse, qui était un film d'animation en ombre chinoise.
Magnifique.
Magnifique. Que des contes inspirés du monde entier. Et moi, qui étais une petite culture assez franchouillarde, je dois le dire, dont je suis très fière aujourd'hui, j'aime beaucoup mon pays et ma culture, mais c'était fou de voir ces contes assez classiques, en ombre chinoise, assez classiques, avec des musiques sublimes, des voix magnifiques. Et ouais, je trouve que le travail de Michel Oslo a vraiment marqué mon enfance et celle de ma petite sœur aussi, qui a 8 ans de moins que moi. Et nous avons ça en commun. Le travail de Michel Oslo et la musique si simple, si belle, c'est doux. C'est doux, je le conseille à tout le monde, même adulte. C'est vraiment, Ouais, c'est vraiment agréable, quoi.
Un autre domaine qui façonne votre rapport au monde, Fishback, c'est la poésie enfantine. Alors, celle faite par des enfants ou celle écrite à leur adresse ?
Je parlais de poésie enfantine à propos de Michel Ocelot, justement, des contes.
Donc, destinés aux enfants.
Destinés aux enfants. Je n'aime pas le terme de grand enfant. Je trouve que c'est même le truc d'adolescence, c'est un peu dégueulasse. Il y a l'enfance, il y a l'adulte, quoi. Et on trouve des excuses à cet âge ingrat entre les deux, alors qu'il devrait être magnifique, sublimé vers l'adultesse. Parce que devenir adulte, pour moi, c'est merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Enfant, j'ai peut-être toujours voulu devenir adulte. D'ailleurs, on pousse les enfants à le devenir et en même temps, on adore être un adulte enfant. Je trouve ça dégueulasse.
Mais pourquoi vous trouvez ça dégueulasse ?
Moi, je trouve ça dégueulasse de prolonger l'enfance comme on le fait, cette société du divertissement.
On le prolonge peut-être pas. Peut-être que réellement, les couches de l'enfance restent et on devient un vieil enfant.
L'innocence de l'enfance est très intéressante. L'émerveillement de l'enfant.
On l'a toujours.
En tant qu'adulte, il faut qu'on le conserve. Non, on le perd. Beaucoup le perdent.
Mais on peut le cultiver.
Et il faut le cultiver. Par contre, être dans un truc très américain, que les Américains nous ont amené après la Seconde Guerre mondiale, notre dette, ça a été de consommer comme eux et d'être dans l'industrie du divertissement. Ça, c'est dangereux pour justement... L'adulte, aujourd'hui, ne peut plus être offensé. Et ça, c'est vraiment grave. Aujourd'hui, quand on est offensé, on clôt le débat, etc.
Tout le monde est offensé en permanence aujourd'hui.
Ben, tout le monde est offensé. Et je pense qu'être offensé, c'est nécessaire pour évoluer. Nous parlions de débat juste avant.
Mais pas autant, quand même. C'est contre le dialogue.
Vous parlez de sentir offensé, ça c'est terrible. C'est normal d'être offensé.
Mais vous parliez de dialogue tout à l'heure. Vous disiez justement que c'était bien d'être en désaccord, d'écouter l'autre, d'en discuter. Je trouve justement que les gens qui aujourd'hui disent ça m'offense, il y a aucun dialogue possible.
Ah ben je suis d'accord avec vous.
Ah d'accord.
Je suis pour être offensé. Moi j'aime qu'on m'offense.
Ah
par
bon
exemple, je trouve ça bien d'être offensé. Et justement, si on reste dans l'état de l'enfance, on ne sera plus jamais. Si on est offensé, ben on refuse le débat et on refuse le dialogue. Alors que justement, être adulte, c'est aussi savoir être offensé.
Mais pas le revendiquer, ne pas écouter l'autre, accepter de l'être. Donc.
On parlait de la poésie de l'enfance, c'est ça qu'il faut garder une fois adulte. C'est ça le plus important. On parlait d'Ocelot, aujourd'hui j'ai 30 ans et je suis encore émerveillée par sa musique. Il faut garder cet émerveillement artistique. Par contre, une fois adulte, se confronter à la dureté de la vie et de l'autre, ça c'est important. Est-ce qu'on s'est compris, Eva ?
Sans doute pas, et ça me plaît. De 1973, Moi j'aime mieux le train de Alexanor, musique de Patrick Juvet et paroles de Gilles Perram. Vous n'avez pas choisi ce titre, Fishback, mais c'est une pépite dénichée par notre réalisatrice Juliette Gou pour introduire votre amour des trains dans lesquels votre pensée devient plus efficace grâce au mouvement du paysage qui défile. Vous le prenez souvent le train ?
Alors j'aime énormément cette musique que je ne connais pas encore, mais déjà je sais que c'est Patrick Juvet à la musique. Patrick Juvet sous-côté, hein, je le dis, je l'aime énormément Patrick, paix à son âme. Je prends souvent le train, je n'ai pas passé mon permis très très tôt, c'est tout récent, j'adore rouler. D'ailleurs des fois je vais rouler, je vais conduire juste pour voir le paysage défiler, ça va vachement mieux après, ou marcher, hein. Mais rouler c'est bien. Et puis le train, mais quelle merveille de technologie, ça va vite, on voit des paysages dingues, le bruit est sympa, enfin... Le bruit du train en lui-même.
Oui, pas les humains.
Bah oui, oui.
Qui mettent des vidéos très fort.
Oui, en haut-parleur.
Oui.
C'est indélicat. C'est très indélicat.
Oh là là,
arrêtez de faire ça, s'il vous plaît.
Oui, c'est insupportable.
Moi, je gueule. Hein, je fais partie de ceux qui se lèvent pour le wagon entier. Alors, certains me détestent.
Moi, je vous aime beaucoup.
Et puis, beaucoup m'adorent. Voilà.
Il y a aussi le fait d'être bloqué. Je veux dire, moi, je travaille très, très bien en train parce qu'on est bloqué. On est face à soi. Il n'y a pas d'autre divertissement possible, justement. On ne peut rien faire d'autre.
Ah bah, si vous avez votre téléphone, vous pouvez tout à fait vous distraire, aller sur YouTube ou Instagram.
Et ça marche très mal, souvent, l'Internet dans les trains.
Eh ben, tant mieux. Hein. Arrêtez avec le Wi-Fi dans les trains, lisez un bouquin, regardez le paysage défilé, prenez des notes, ou rêvassez. Est-ce qu'on rêvasse assez ?
Bon, parce qu'on a peur de l'ennui, et pourtant l'ennui est un terreau fertile pour la création.
Tout le monde le dit, ça fait des années qu'on le dit, et on le fait pas assez. Qu'est-ce que c'est bon de couper son téléphone et de rêvasser, notamment quand le paysage défile. Parce que la pensée vient avec le mouvement, quoi. J'y crois pertinemment.
Et quand on est sur place... C'est le bruit que ça faisait quand on se connectait à Internet dans les années 90. Fishback, vous avez choisi l'apparition d'Internet, mais vous étiez un bébé à ce moment-là, donc vos premiers émerveillements devant la technologie ont eu lieu plus tard, après 2000. Vous évoquez ce moment vers l'âge de 12-14 ans, où on va aimer les musiques qui resteront en nous toute notre vie. Quels sont vos souvenirs de découvertes sur Internet ?
Bah, c'est vrai qu'Internet est apparu très tôt, mais il s'est démocratisé beaucoup plus tard. Au début des années 2000, avoir un modem et un ordinateur personnel, c'était pas acquis pour tout le monde.
Non, c'est sûr.
J'ai pas grandi avec ça, mais effectivement, dès que l'ordinateur est apparu, on pouvait... Moi, j'avais pas de grand frère ou de grande sœur qui pouvait me conseiller des chansons à écouter. Et quand Internet est apparu, bah voilà, on se faisait notre propre identité. On était très fiers, d'ailleurs, d'arriver au collège et de dire « Comment ça, t'écoutes du rap de Skyrock ?» Mais pas du tout. Moi, j'écoute du Amon Tobin. Je me la racontais, c'était insupportable. Et mais en tout cas, je me suis forgé une culture comme ça qui était intrigante. Et tout le monde, aujourd'hui, peut le faire, un gosse, s'il est un peu curieux et si on aiguise sa curiosité. Parce que je pense pas qu'Internet soit responsable de ça. Mais en tout cas, il aura l'outil pour aller lui-même se faire son savoir. Et je trouve ça merveilleux.
Votre voix est parfois comparée à celle de Désirless, de Christophe, de Catherine Ringer. Vous êtes ému par Balavoine, vous êtes ému aussi par Farmer. Et vous dites d'ailleurs Farmer et Christophe pour le côté non intelligible.
Ah oui, alors c'est purement technique. Alors c'est drôle parce que les artistes que vous citez n'ont rien à voir les uns les autres.
C'est ce que j'aime quand ça n'a rien à voir.
Les gens me comparent à des gens qui n'ont rien à voir les uns des autres, c'est très drôle. Et effectivement, Christophe a quelque chose d'inintelligible de par sa diction, que moi je trouve sublimissime, vraiment me touche au plus haut point, et plus je n'en ai pas assez, plus je l'aime. Et Farmer, c'est aussi par ses textes qui deviennent de plus en plus limpides à mesure qu'on se les approprie.
Et d'ailleurs, en parlant de Mylène Farmer, on est en plein festival Hyper Weekend à Radio France, là au Studio 104, et vous serez tout à l'heure justement dans la création sans contrefaçon autour de Mylène Farmer.
C'est des artistes merveilleux, ils laissent de la place aux autres. On vous donne pas un truc clé en main que tu peux comprendre tout de suite et donc tu te lasseras parce que le message, en fait, il est un peu chiant. Quand je dis tu, c'est à toi, l'auditeur, que je m'adresse. Et à moi-même, peut-être. Mais c'est génial, ça vieillit bien.
Qu'est-ce que c'est ?
Et ardent, mon fils, ma bataille, mon chien.
Il y a Vladimir Kosma aussi, que vous connaissez par cœur.
Je connais par cœur. Et j'aurais pu citer d'autres personnes, ça parle à tout le monde, Cosma, parce que c'est très franchouillard aussi. C'est un homme qui vient de l'Europe de l'Est et puis qui a composé tous nos grands classiques français auxquels je suis extrêmement attachée. C'est vraiment ma culture. Mais récemment, j'ai aussi découvert un artiste qui s'appelle Elmer Bernstein, qui a fait les bandes originales de films de péplum et de films très romantiques des années 40, 50. Voilà, ça me touche. J'écoute ça à la maison, ouais.
Vladimir Kosma qui m'avait appris à dire mélancolie en roumain, dor.
Dor ?
Ouais, dor, D-O-R.
C'est sublime.
Oui.
Waouh ! Merci, j'apprends quelque chose aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Fishback, vous regardez plein de films, vous jouez à des jeux vidéo, vous lisez de la philosophie. Quel jeu vidéo ?
Alors récemment, j'ai joué à ce fameux jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, qui était très décrié parce que pas fini à sa sortie il y a 2 ans. J'ai la console qui permet de le faire tourner aujourd'hui et je peux vous dire que c'est une œuvre. C'est Blade Runner en jeu vidéo. C'est une dystopie des plus fabuleuses auxquelles j'ai pu jouer. Vraiment, il a fait débat. Je suis ravie d'avoir joué à ça. Red Dead Redemption aussi, qui nous plongeait dans le Far West, sublime, début 19e siècle. Ça, c'est des jeux triple A, comme on les appelle, des très très grands jeux, de très grands studios, avec des mélodies incroyables, des scénarios sublimes. Et j'ai hâte de voir le prochain Hogwarts Legacy qui va sortir, où on nous plonge dans un élève de Poudlard au 19e siècle. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai hâte d'être à Poudlard et de faire ma propre histoire.
Honesty between a seller and a buyer should be a given, but man, I didn't know you were a liar. Dropped out of college, still I made it through the wire. We was trying to hustle whatever was 10 just for a fiver. Don't sell yourself short, miss, said the driver. Was on my way to getting caught in a crossfire. I mean, lavish living, dripping designer. Who you wearing? They're so enchanted by attire. Hearts on fire, bought the dream with every penny that I acquired. This is set up and you'll be next up to those prior. Devil works hard, but the business works harder. I vowed from now to work smart.
smart art. They won't do it like us. For the people by us, why they wanna fight our spirit on higher. God made truth of everything I desire. I'll read much as long as I got my baby, he a rider. He's sitting beside her, that's who she confiding. They want you conniving, creeping with your sighting. Making up a story that equals somebody buying. New world order, cause life as we know is dying. Not thriving, it's only a matter of timing. Ain't it just funny how you can literally give your everything? Somebody gonna turn around and tell you you ain't gave enough. Danger, what you afraid of? Acknowledging it's impossible now to restrain her. Worst thing I could have done is put trust in a stranger. But that needed to happen for me only to wake up. The shoots will get in your ear when your shit popping. Lies overflowing and they ain't stopping. You don't even recognize who it is that you're becoming. They don't give a shit long as the gravy train running.
My life is a blessing.
So pure, do it for the love, nothing more. Nah, maybe to cop mama house, but nothing more. Maybe to sort my cousin out, but nothing more. Maybe I'll get a new coupe, nothing more. 15 to 100 shoes, nothing more. By the time you know it, that list never stopped growing, and you don't know what you even do this for. Hearts on fire, hearts on grand door. Ballroom gowns and champagne pours. Is the after party a social party? With everybody talking, the music should have been paused. Marble floors and tall glass doors is what you're in for. Did you read the clause? It was never about looking for results now. Every time you do something, you need an applause. Please keep your head on when you're going.
Little Sims, Heart on Fire sur France Inter, toujours en compagnie de Fishback.
L'embellie. Eva Bester.
Good morning.
Morning.
Good morning.
Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
Yeah, yeah. Morning, Truman.
Morning, Spencer. Hey, Pluto. Oh, no.
Get down.
He won't hurt you.
Get down.
Yeah, I know. It's just me.
Come on, Pluto.
Le film que tout le monde devrait voir pour être armé dans l'existence, selon vous, Fishback, date de 1998, The Truman Show de Peter Weir. Comme tous les jours, Truman, agent d'assurance incarné par Jim Carrey, sort de chez lui et salue tous ses voisins dans une félicité béate qui ne va pas tarder à être plus que troublée. Je vous laisse nous raconter pourquoi.
Je crois que ce film, au-delà du raconter qu'on soit surveillé et qu'on nous mente, c'est un rapport à l'enfance, encore une fois, où on nous baigne par les médias, par nos parents qui nous cachent les yeux quand il y a une scène de sexe dans un film, et qui doit s'émanciper du monde qu'on a créé pour lui. Et ça, je trouve ça très très beau. Je ne sais pas si c'est le film qu'on doit voir pour être armé dans la vie. En tout cas, je sais qu'il m'a fait un effet boum chez moi quand je l'ai vu, où je me suis dit « Ah, mais c'est ça, en fait !» On nous surveille, on nous programme pour être quelque chose. Et tout le but, c'est de se rendre compte de où est la porte de sortie. Cette scène magnifique, je ne spoil pas le film, mais je le spoil quand même, à la fin où le bateau s'ancre dans le mur.
Alors il faut quand même dire pour les auditeurs qui n'auraient pas vu ce chef-d'œuvre que c'est donc un homme qui devient de plus en plus troublé parce qu'il a l'impression que tous les gens qui lui parlent sont des comédiens et qu'on l'observe. Et en fait, on se rend compte qu'il fait partie d'une télé-réalité. Il y a d'ailleurs un trouble psychiatrique aujourd'hui qui s'appelle le trouble Truman, le syndrome Truman, qui relève un peu de la paranoïa.
De la paranoïa ou pas, parce qu'à partir du moment où les gens en ce moment se mettent en scène eux-mêmes, ils cautionnent eux-mêmes le Truman. Je ne sais plus comment s'appelle ce personnage qui surveille tout depuis la Lune. Merveilleux d'ailleurs dans ce rôle. Et en fait,
c'est Ed Harris qui le joue.
Ed Harris. Et on devient et le Truman et le réalisateur. Le fait de se mettre en scène en permanence résonne d'autant plus aujourd'hui. Et donc on est prisonnier de notre propre monde qu'on se crée avec des comédiens qu'on choisit ou pas autour de nous. Et je trouve que ce film, oui, résonne de plus en plus et on pourra en tirer les leçons qu'on en veut. Il est important de s'en rendre compte aujourd'hui, oui.
Vous trouvez ça plutôt terrifiant ou plutôt une bonne nouvelle ?
Plutôt terrifiant, mais une bonne nouvelle de s'en rendre compte.
Pas toujours quand même, la lucidité.
La lucidité est une bonne nouvelle, elle est douloureuse. Il faut savoir, en tout cas, s'extraire de la propre prison qu'on a créée Moi-même, je me crée une prison en étant chanteuse et en chantant tous les soirs la même chose. Je me crée une prison en me disant que Instagram est le seul média avec lequel je puisse communiquer avec mon public. C'est peut-être faux. J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le bateau qui va se cracher contre mon propre mur. Mais je le cherche, en tout cas.
Mais vous ne pensez pas qu'on a besoin du divertissement et de l'illusion pour survivre, parce que le réel est insupportable ?
On en a besoin, il le faut, en tout cas pour nous inspirer. Quelquefois, moi-même, je m'assomme de films, je m'assomme de jeux vidéo, je m'assomme de culture, je m'assomme même de podcasts, de France Inter ou de playlists Spotify. Là, je viens de citer des grandes baraques. Et peut-être qu'à travers les œuvres ou les personnages qui les traversent, j'arrive à m'en émanciper et à poser justement le téléphone, et à poser mes idées et arrêter de consommer le divertissement comme une malbouffe. Et surtout, quand je vois un documentaire au matin, il faut que je creuse le sujet toute la journée. C'est ça. Le divertissement, en tout cas, peut nous mener à ça, à creuser des sujets. Mais il faut se méfier de son abondance, en tout cas.
Fishback, vous avez composé pour le cinéma. Teddy, des frères Boukerma, film d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé et que je recommande. Et L'origine du mal, de Sébastien Marnier. Est-ce que vous aimeriez donner plus de place à la composition pour les films ?
Ah oui, c'est merveilleux. D'ailleurs, je n'écoute que ça. De la musique de film. J'écoute énormément de musique classique, mais la musique de film, elle a cet avantage de reprendre toute la beauté de la musique classique. D'ailleurs, tous les grands compositeurs, je citais Bernstein plutôt, ont vécu, ont grandi avec la musique classique et l'amènent aussi à des codes beaucoup plus actuels. Et j'écoute énormément de musique de film quand je lis des bouquins, par exemple. C'est un bon accompagnateur pour donner un paysage sonore propice à l'imagination et au lyrisme et à la tension, etc. Que ce soit dans la science-fiction, dans des essais, etc. Donc ouais, si on me réinvite à faire une musique de film, je serais très assidue.
Par exemple, quel est le dernier livre que vous avez lu en écoutant une musique de film et quelle était-elle ?
Ah bah c'est un très mauvais exemple là, parce que je suis en train de lire Le Misanthrope de Molière là.
Ah.
Ah oui, c'est un tout petit bouquin, c'est une toute petite pièce de théâtre. C'est vrai que la musique n'était pas toujours la bienvenue, puisqu'il y a une musicalité totale. Donc oui, c'était ma petite musique intérieure que j'ai écoutée à ce moment-là. Mais en tout cas, je m'en suis fait un paysage sonore assez intégral.
En lisant...
Le Misanthrope de Molière. Et en plus, en lisant du Molière, et toute petite œuvre comme ça, ça résonne en moi en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ce personnage d'Alceste, qui râle beaucoup, mais qui s'en prend plein la gueule aussi, me parle beaucoup en ce moment. Et puis c'est un livre qu'on relit. Donc il y a une musicalité qui s'affine, qui s'aiguise au fur et à mesure de la lecture. On relit les passages plusieurs fois, c'est merveilleux.
C'est merveilleux. C'est merveilleux, Molière. J'en suis vraiment à ce moment où on dit une phrase de cette banalité.
Bah oui, mais c'est con.
Mais c'est vrai, c'est merveilleux, Molière.
On nous l'a imposé à l'école, du coup on l'a boudé.
Oui, on l'a boudé, on l'a pas savouré à sa juste valeur.
Mais à cet âge-là, on a autre chose à fiche quand même.
Oui.
Que
manger des chewing-gums qui sont par terre.
On préférait... Par terre, vous êtes sûr?
Oui, j'avais fait ça à l'époque, alors que maintenant je me désinfecte les mains tout le temps.
Bon, j'allais dire, écoutez Rage Against the Machine en boucle, mais
oui.
Pourquoi pas, c'est du même acabit, hein, bouffer des chewing-gums par terre. Bref, et aujourd'hui, à 30 ans, on se dit, oh là là, mais en fait, c'était génial.
Fishback, je vous ai demandé ce que vous aviez raté, vous avez dit, ma scolarité, quelques histoires d'amour, rien de très important. C'est pas important, les histoires d'amour?
Bah, sur le coup, si, hein, c'est dramatique. Sur le coup, c'est dramatique. Et puis, avec le temps, on se rend compte que pareil, on y a mis trop d'entrain, quoi, mais c'est normal. L'amour ne sera jamais trop important, ça c'est sûr. Mais les histoires d'amour ratées, elles ne sont pas importantes. L'amour est important, mais les histoires ratées ne sont pas importantes.
Ça constitue tout ce qui fera la réussite de la suivante?
Non, parce que franchement, s'être planté, c'est qu'on a fait des erreurs, donc ce n'est pas si important. On ne va pas refaire le raté. On évolue et c'est tant mieux, quoi.
Est-ce que vous croyez en l'amour, comme vous le dites en anglais, dont tu es en vie ?
Évidemment, plus que quiconque.
Et vous êtes désolée, comme vous le dites dans le morceau ?
Oui, je suis désolée.
Pourquoi ?
Je suis désolée pour moi, j'ai été bête. Je suis désolée pour l'autre, j'ai pas été à la hauteur. Et puis, c'est pas très très grave. J'en tire quelques leçons, en tout cas j'en prends de la graine, ou pas, hein, ça se trouve. Je me souhaite d'ailleurs d'avoir un amour adolescent à mes 45 ans, 50 ans, ce serait drôle.
Ah, adolescent quand même, vous les tolérez,
oui.
Là d'un coup.
Ah bon, on les tolère, bien sûr, parce que la bêtise amoureuse est la seule qui soit tolérable.
Je vous ai demandé de choisir quelque chose de beau à recommander aux auditeurs.
Why is it I spend?
Flashback, vous avez choisi la discographie du musicien, compositeur, arrangeur et chanteur américain Les Baxter, dont on entend le morceau Thinking of You, qui n'est pas de lui, mais c'est lui qui l'a arrangé. Baxter a aussi composé plus de 100 musiques de films et il est l'un des créateurs de l'exotica. Qu'est-ce que c'est l'exotica ?
Ah, c'est drôle parce que l'exotica, aujourd'hui, on la voit comme un style de musique électronique avec quelques fausses percussions, on va dire, du monde. Alors que c'est né beaucoup plus tôt. En même temps, on dit d'une musique exotique, c'est assez colonialiste presque de dire ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que Les Baxter, ça va être encore une fois de la musique de film avec des chants très très 50s, très années 40, très années 50. Et puis aussi de la musique classique, beaucoup de flûte, beaucoup de clarinette. Moi ça me rend dingue. Et quelques instruments du monde magnifiques. Et je pourrais notamment citer cet album qui s'appelle The Sacred Idol, l'idole sacrée en français, notamment avec des morceaux comme Aqueducts, Fruit of Dreams. Écoutez ça, c'est un bonheur. Moi, j'écoute ça à la maison pendant que je fais autre chose, mon ménage, mes pensées, mes bouquins. Et ça me lasse pas. Je m'en lasse jamais.
Pour les auditeurs, on va leur faire écouter un petit bout d'Exotica, justement, avec le morceau Tropicando. Tropicando, Les Baxter. Et autre choix de beauté pour les auditeurs Fishback, les acrobates de la compagnie XY. Comment vous avez découvert ce collectif ?
Par hasard, j'étais en tournée en Allemagne et je crois que c'est dans la ville de Cologne, ou Saarbrück. Je jouais dans un festival qui proposait un festival multidisciplinaire. Et juste avant mon concert, il y avait des acrobates, qui étaient des acrobates très nombreux. Ils devaient être une quarantaine, je mens pas. Il y avait des gros, il y avait des grands, il y avait des vieux, il y avait des jeunes. Et puis t'avais le gros sur la petite vieille. Enfin, c'était dingue. Et ils faisaient des trucs que j'avais jamais vus en acrobatie. Et ces trucs de troupe, de mouvement des corps, improbable. Je sais pas, ils m'ont bouleversé ces gens-là. Et je vous dis ça, il y a des années. J'ai vu ça peut-être en 2017, 2018. Et depuis, je les suis sur Internet, je vois leur spectacle. J'ai hâte de les revoir. Ils m'ont bouleversé. Et j'ai trouvé ça une beauté total des gens qui s'empilent les uns sur les autres et qui se tombent dessus et qui se remontent dessus, mais d'une manière grasse. Ouais, c'est sublime ça. Ça, c'est sublime, les acrobates.
Il y a un spectacle qu'ils vont donner qui s'appelle Moebius, avec la collaboration du chorégraphe Rachid Ouramdan, le directeur de Chaillot, Théâtre National de la Danse. Ce sera à Pau les 2 et 3 février, les 3 et 4 à Mont-de-Marsan, le 11 à Avignon, 14 et 15 à Orléans. Et on arrive à l'engagement de fin d'émission, Fishback, et vous m'avez donné du fil à retordre, une fois de plus, parce que vous avez dit « je ne suis pas du genre à faire des promesses ». Mais là, on ne vous demandait pas une promesse, on vous demandait un petit engagement dans n'importe quel domaine. Mais alors parlons des promesses, vous n'êtes pas du genre à faire des promesses.
Un petit engagement, mais moi je suis beaucoup trop sensible pour ce genre de bêtises. Un petit engagement, qu'est-ce que c'est un petit engagement ? Il n'y a aucun engagement qui soit petit pour moi. Je me mets à fond dans chaque chose que je fais.
Mais ça pourrait être, je sais pas moi, je me brosse toujours les dents de la main droite et pour me déshabituer et être une nouvelle personne à chaque seconde, je vais me brosser les dents avec la main gauche.
C'est intéressant, les gens ont besoin de savoir ça, tiens. Pas du tout.
Eh ben oui, c'est intéressant, figurez-vous. Je vous le dis, je tape du poing sur la table. On est deux hommes politiques, on se chamaille, dites donc. Vous n'êtes pas facile, Fishback.
Je ne suis pas du tout facile. C'est d'ailleurs ce qu'on me reproche. Et pourquoi peut-être on m'appelle et on me fait confiance. Je n'ai aucun engagement à vous faire, si ce n'est que si vous venez à mes soirées, je m'engage évidemment à vous faire découvrir des choses et des artistes que vous aimerez et qui vous surprendront.
Vous voyez, ça c'est un engagement.
Ah bah ça je m'y engage, mais tout de go.
J'aime beaucoup les gens qui disent tout de go. Et juste, je reviens tout de même sur ça, mais pourquoi vous n'êtes pas du genre à faire des promesses ?
Je suis pas du genre à faire des promesses parce que ça pourrait me bouffer et puis surtout je vais pas les tenir. J'aime pas promettre. J'aime pas les gens qui promettent.
Pourquoi vous n'allez pas les tenir ?
Je n'aime pas la complaisance. Je n'aime pas les flatteurs. J'en ai tellement vu des gens autour de moi que souvent je me dis, eh bien, tu sais quoi ? Des fois, je ne sais pas qui je suis, mais je ne sais qui je ne veux pas être. Et les prometteurs, les complaisants, j'en ai tellement vu autour de moi que je m'interdirais toujours d'être parmi eux. Il y a des gens qui tiennent leurs promesses. Ils sont très peu nombreux. Mais j'attends rien des promesses en général. J'attends des actes, j'attends des surprises, mais les mots, c'est trop facile.
Merci beaucoup, Fishback, d'être venu dans l'émission.
Merci pour vos mots, à vous qui, en tout cas, étaient très engageants. Merci, Eva.
Votre dernier album, Avec les yeux, est sorti en février dernier chez Sony sur le label Entreprise. Des concerts sont en préparation. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre semaine aura la grâce d'un abat-jour longeant une passerelle métaphysique. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.